des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Rayon gamma, facteur epsilon. Un académicien des sciences nous parle des humanités. Aujourd'hui, Pierre Léna, académicien des sciences, qui est avant tout astrophysicien et spécialiste des techniques infrarouges. Monsieur Léna, dans une conférence récente sur Internet, j'ai entendu la question d'un Japonais qui vous demandait de préciser des termes, le terme d'exoplanète en l'occurrence. Et vous répondiez très exactement « Tout nouveau champ est accompagné d'hésitations sémantiques. Les mots traduisent des choses que nous voyons ou des concepts que nous imaginons. Aussi longtemps que le concept n'est pas fixé, la langue hésite. » La langue est-elle tellement importante pour traduire la science?
Alors je répondrais sans aucune hésitation, oui. La question de cet homme est d'actualité en un sens, puisque vous aurez sans doute vu que cet été, l'Union astronomique internationale, qui est une des unions scientifiques appartenant à le Conseil international de la science, qu'on appelle ICSU, Union scientifique fondée à Paris, dont le siège d'ailleurs est à Paris, il y a plus d'un siècle maintenant, a hésité sur le nombre de planètes du système solaire. Et ce nombre a été ramené de 9 à 8.
Et c'est Pluton qui a été la victime.
Et Pluton a été la victime, oui. Et on peut s'interroger pourquoi. Est-ce que c'était une bonne décision? Moi, je crois que ce n'était pas une très bonne décision, mais... Le point intéressant, c'est que la discussion a porté sur qu'est-ce que c'est qu'une planète? Qu'est-ce que derrière ce mot nous entendons? Alors, pour notre système solaire, c'était l'objet de la décision, mais aussi pour d'autres systèmes planétaires autour d'autres étoiles que le Soleil.
Alors, vous aviez déjà répondu aux Japonais à l'époque, j'avais bien suivi votre cours, que planétesse voulait dire que c'était quelque chose qui errait, qui bougeait.
Oui,
si j'ai bien
compris. Le mot grec est très précis. Hein, les astres errants par opposition aux étoiles fixes. Hein, donc les Grecs avaient fait cette observation fondamentale. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs. Les Chinois l'avaient fait, d'autres, les Babyloniens aussi. Hein, qu'il y avait dans le ciel apparemment, en dehors des deux grands luminaires, hein, comme dit la Genèse, le Soleil et la Lune, qu'il y avait en gros deux catégories d'objets, les fixes. Donc les étoiles dont la forme des constellations découle est immuable d'année en année. Et puis ces objets qui sont très brillants, souvent Vénus, Jupiter, Saturne sont des objets brillants, et dont à la fois l'éclat et la position dans le ciel ne cessent de varier. Et donc ils avaient créé une catégorie particulière qui correspondait bien, la suite l'a montré, à une réalité physique. Donc ce problème de la nomination et de l'étymologie est très important pour la science elle-même. On pourrait multiplier les exemples.
D'autant plus que, si je ne me trompe, on vient de baptiser Eris la pomme de discorde dans l'histoire de Pluton. Or, Eris veut dire en grec la discorde.
Tout à fait.
Donc, nous allons très loin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aujourd'hui qu'on la baptise comme ça. Donc, les gens se rappellent encore en astrophysique, ce que veut dire
Eris. Il y a une règle que les objets célestes... L'attribution des noms... En géographie, il a toujours été un enjeu politique hein, dans les conquérants. Mais dans le ciel, il y a un accord international qui est que l'attribution des noms relève de cette instance, l'Union astronomique internationale. Et donc, on ne peut pas se livrer. Il y a eu des escroqueries célèbres, hein, des gens qui vendaient des étoiles. Alors, vous payez $200 et vous avez une étoile, on lui donne votre nom.
Bon. Saint-Exupéry, par exemple.
Ça, c'est pas une escroquerie. Mais enfin, il y a eu de véritables problèmes de détournement de cette règle internationale à laquelle tous les pays et tous les scientifiques se plient, et qui fait que, s'agissant des objets du système solaire, des planètes ou des objets qui tournent autour, les satellites, on les prend dans la mythologie gréco-latine.
Ce qui est intéressant quand même de nos jours. Alors, plus généralement, vous êtes assez préoccupé par un sujet sérieux qui est l'enseignement des sciences. Et qui dit enseignement des sciences, je suppose pour un homme tel que vous, veut dire enseignement tout court.
Oui, bien sûr.
Alors, d'abord, comment concevez-vous, voudriez-vous concevoir d'une manière générale l'enseignement des sciences ? Est-ce qu'on peut tout vulgariser ? Est-ce qu'il faut tout expliquer ? Est-ce que tout est à la portée du quidam ? D'une part, et d'autre part, quel serait peut-être le rôle d'une réflexion plus distanciée que d'un regard sur le monde que peuvent apporter peut-être les humanités ?
Il y a un terme que j'aime pas beaucoup, madame, c'est celui de culture scientifique et technique, dont aujourd'hui les médias et les textes officiels parlent beaucoup. Pourquoi je n'aime pas ce terme, encore qu'il m'arrive de l'employer quand mes interlocuteurs s'y attachent, parce que moi je crois qu'il y a la culture. La culture, c'est cet immense héritage que nous recevons des générations qui nous ont précédés, et qui se décline ensuite dans toutes sortes de facettes dont aucune n'est indépendante des autres. Et donc la science et la technique, c'est une de ces facettes de la culture. Je ne vois vraiment pas de raison de la qualifier ainsi, d'autant plus que on a alors tendance à opposer, dans un travers un peu français, la culture littéraire, humaniste d'un côté, qui comprend tout sauf la science. Et puis on aurait une autre case, un peu ésotérique, un peu réservé à des spécialistes qu'on appellerait scientifiques et techniques.
Encore tout récemment, il y avait la classe, excusez-moi de vous interrompre, mais la classe A' qui regroupait,
J'ai été élève d'une telle classe, c'était, oui. Vous êtes jeune madame, je le suis moins que vous, c'était quand même il y a quelques décennies.
Oui.
Donc j'irai plus loin, les sciences pour leur progrès ont besoin d'être insérés dans, disons, l'histoire générale de la pensée humaine. Et je crois à l'Académie des sciences, par exemple, vous trouverez beaucoup d'entre nous dont les études classiques au sens littéraire ont été peut-être plus mises en valeur, peut-être avec des résultats meilleurs que les études scientifiques au départ.
Avez-vous fait vous-même du latin et du grec ?
J'ai fait du latin sans être un très bon élève. J'ai fait du grec avec plus de succès parce que j'aimais beaucoup cette langue. Et je crois que ça a littéralement construit ma pensée scientifique.
Ah oui, pouvez-vous nous dire dans... Enfin, je sais que c'est très difficile de le résumer, mais dans quelle mesure cela peut-il manquer à quelqu'un qui ne l'a pas fait ? Ou alors dans quelle mesure cela a-t-il construit plus positivement
votre pensée ? Je préférerais répondre de façon positive. Nous sommes amenés à l'Académie des sciences, en particulier autour de la main à la pâte, c'est-à-dire cette action de rénovation pour l'école primaire, à beaucoup réfléchir d'un point de vue pédagogique, donc vraiment sur le terrain de l'enseignement, au lien entre science et langage, au lien qui font que, dans la réciprocité, on ne peut pas avoir une activité scientifique, fût-ce à l'école primaire, si l'on n'est pas capable de porter par écrit, de manière claire, avec une syntaxe limpide, un vocabulaire précis, ce que l'on a observé lorsqu'on voit une plante s'épanouir au soleil, de l'eau couler d'un robinet ou tout autre phénomène du monde naturel. La science a besoin d'une construction précise pour s'exprimer. On pourrait dire, mais pourquoi la science a-t-elle besoin de s'exprimer ? Parce qu'il n'y a pas de science sans communication des résultats. Ce qui fait le cœur même de la science, c'est son objectivité. C'est-à-dire le fait que ses apports, ses résultats, à un moment donné, font l'objet d'un consensus, ou au moins d'un débat d'où sort un début de consensus qui l'a fait sortir de la subjectivité d'un individu pour la faire entrer plus que dans l'intersubjectivité d'un groupe d'individus, dans l'objectivité d'une réalité des choses. Et ça, ça passe par la langue. Un résultat acquis dans mon laboratoire, une observation, s'il n'est pas mis en forme, publié comme un article qui a été critiqué et qui est ouvert à la critique, n'a pas de valeur.
Est-ce que ça n'est pas une conséquence du mot de Galilée qui disait que tout est écrit dans le monde, dans la nature, en lingua mathematica?
Oui, alors oui et non, je dirais. Galilée a raison de pointer ce rapport extraordinairement étroit entre les phénomènes du monde et notre capacité de les traduire en formules, en lois mathématiques. Ce qu'il a fait le premier.
Ah, il dit en langue mathématique.
Alors, là, je dirais qu'il faut être un peu prudent. Je me rallie absolument à ce qu'il dit. Mais je dirais qu'il y a une certaine prudence à propos de l'enseignement, qui était votre question initiale. Dans notre pays, beaucoup pensent que sans formule, il n'y a pas de science et que les formules leur sont inaccessibles. Donc, troisième terme du syllogisme, la science leur est inaccessible. Or, c'est faux. Bien sûr, pour pratiquer la physique ou l'astrophysique, moins d'ailleurs pour les sciences biologiques. Vous pouvez prendre un article dans la revue Nature et vous verrez que le formalisme de langage utilisé est un formalisme qui n'est pas mathématique. Et il y a une raison simple à cela, c'est que la complexité des structures du vivant est telle qu'on n'a peut-être pas encore les outils mathématiques qui permettent d'en traiter. En revanche, notre enjeu pour l'enseignement est d'être capable de dire ce que nous savons du monde, ce que la science nous en apprend, ce que nous en avons découvert par notre activité de chercheur, dans un langage qui ne soit pas une trahison de la réalité des choses, mais qui ne soit pas une formule, qui soit dans la langue de tous les jours. Et ça, je crois que c'est pas facile, ça s'apprend. Et la maîtrise de la communication verbale écrite que nous apprend l'étude de notre langue française, mais aussi des langues anciennes, est extraordinairement précieuse pour cela.
Est-ce que ce n'est pas une autre discipline? Parce que vous avez l'air de dire, en l'occurrence, que c'est la même personne, peut-être je me trompe, qui fait la recherche et qui écrit la communication, évidemment, au sens scientifique du mot, mais la transmission. Est-ce que, finalement, la science, non seulement à quelques cas près extrêmement rares, ne peut pas penser la science? Est-ce que la science peut aussi écrire la science? Vous-même, vous parlez d'ailleurs de traquer la lumière. Vous avez des expressions extraordinaires lorsque vous parlez de la recherche de la finesse, de la recherche en finesse.
Des images astronomiques.
Des images astronomiques, oui. Et qui sont tout à fait extraordinaires. Vos expressions. Mais très vite, vous parlez de Baudelaire, vous parlez de Vermeer, qui ne peignait, je crois, que, dites-vous, je ne le savais pas, qu'avec un fil du pinceau parfois. Est-ce que les analogies et la pensée analogique, finalement, ne relèvent pas plus de l'écriture et d'une certaine structuration du monde que nous ont légué les Grecs? Entre autres, je ne suis pas obsédée par les Grecs, mais notre formation est plutôt grecque. Et les scientifiques faisant un tout autre métier, au fond. Parce qu'aujourd'hui, on tombe un peu dans l'idée que seuls les scientifiques peuvent expliquer la science. Est-ce qu'ils peuvent la transmettre?
Si j'ai bien compris votre point, moi, je tiendrais que nous avons non seulement une capacité, une possibilité, mais aussi une obligation de transmettre la science que nous faisons. Et de la transmettre dans une langue intelligible. J'en vois d'ailleurs pour preuve l'écho dans le public de scientifiques de grande qualité qui ne sont pas dans notre académie. Dans ma discipline, Hubert Reeves est un scientifique reconnu, combien, et qui s'est fait l'interprète de cette science auprès du public avec le succès que l'on connaît. Je ne pense pas qu'un journaliste, quel que soit son talent, aurait eu ni le même impact, ni la même authenticité dans son discours. On peut prendre aux États-Unis Carl Sagan, puisqu'on parlait de planète tout à l'heure, qui a joué un rôle extraordinaire dans la transmission de l'aventure spatiale d'exploration du système solaire à toute une génération, une série de générations aux États-Unis. Le fait, en revanche, de ne faire bien cette transmission que si l'on possède, l'outil, je dirais plutôt métaphorique qu'analogique, que la culture enracinée, en particulier dans notre grande tradition gréco-latine, apporte, et j'ajouterais la Renaissance et l'âge classique, hein, qui sont quand même, et l'âge des Lumières, finalement, il y a une continuité qui doit être suivie là, hein, est très important pour cette transmission. Prenez, je parlais d'Hubert Reeves, prenez le titre de son livre, Patience dans l'azur, ce livre qui a parlé à tant de Français. Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry. Donc il a pris le titre de ce livre, ô combien juste, chez quelqu'un qui n'avait pas de connaissances astrophysiques. À nous, scientifiques, de savoir solliciter dans le trésor des écrits, des peintures, vous parliez de Vermeer tout à l'heure, mais je crois que on parle du langage, donc il s'agit d'abord des écrivains et des poètes, à nous de savoir y trouver ce qui va être porteur de la petite étincelle d'éveil qui fera que la personne à laquelle nous nous adressons ne nous enfermera pas dans une case, c'est un scientifique, moi je suis littéraire, donc je ne peux pas comprendre, mais fera justement ce pont que le langage construit.
Nous allons faire une pause. Nous retrouvons dans un instant Monsieur Pierre Léna.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Nous retrouvons l'académicien des sciences Pierre Léna, astrophysicien. Monsieur Léna, vous avez dit que, et je suis assez pour, que nous devons vulgariser si nous voulons arriver à un exercice démocratique de la société. Évidemment, les gens doivent choisir, il faut savoir ce qu'ils choisissent. Est-ce que tout, absolument tout, peut être vulgarisé? Est-ce que demain, vous faites fort de me faire choisir en 2 minutes entre un vote sur la fission ou un vote sur la fusion?
Le mot « vulgariser » est un mot un petit peu ambivalent, en ce sens qu'il porte en lui une très légère connotation négative. Vous voyez, on part de connaissances scientifiques élevées, et puis on va mettre à la portée du public, des ignorants, ces connaissances sous une forme vulgaire. Alors, je sais bien, l'étymologie n'est pas celle de l'acception actuelle du terme. Et moi, je crois que, bien sûr, il faut faire cet effort de communication de la science. Nous en avons parlé. Nous avons parlé d'Hubert Reeves. C'est très important. J'ai essayé de le faire moi-même sous des formes variées, à la télévision en particulier. J'aime bien cela, déjà. Et je crois que c'est important. Et comme je vous l'ai dit, je crois que les scientifiques eux-mêmes doivent s'y prêter. Mais la question que vous posez, en fait, touche à autre chose. Alors, vous m'avez d'abord demandé, est-ce que tout peut être vulgarisé? Prenons le terme. Non. Je crois qu'il y a des notions scientifiques qui sont extraordinairement difficiles et qui nous introduisent dans des mondes qui heurtent tellement le sens commun, le sens que nous construisons à notre échelle, que c'est très difficile d'y entrer. Des notions, j'entends. Des concepts, des abstractions. La mécanique quantique est un exemple de cette difficulté.
Ou la supraconductivité.
La supraconductivité, c'est un petit peu moins difficile, mais la théorie des cordes, par exemple, en astrophysique aujourd'hui, qui est peut-être absolument essentielle pour notre compréhension de l'univers, aujourd'hui, dans notre culture, est difficile à transmettre. Bon, donc la réponse, je crois, est claire. Mais derrière votre question, j'entends autre chose, qui est sur les enjeux de société qui aujourd'hui sont proposés à nos concitoyens et sur lesquels, en démocratie en tout cas, ils ont des choix à faire. Ces enjeux de société, très souvent, ont un arrière-plan, voire même un contenu extrêmement scientifique et technique. Alors, je parlerai plutôt de technosciences parce que les deux sont souvent si imbriqués. Prenons les OGM, les cellules souches, les enjeux climatiques, et on pourrait allonger longtemps la liste. Dans quelle mesure le public a-t-il voix au chapitre? Dans quelle mesure doit-on se ranger à l'avis d'experts qui, eux, comprennent ces problèmes complexes? Dans quelle mesure la parole des scientifiques doit-elle être communiquée de façon à permettre à ce public de se faire une opinion? Voilà la question que j'entends derrière vos propos. Et personnellement, je crois qu'il ne s'agit pas tant d'une transmission de connaissances sur tel ou tel des sujets que je viens d'évoquer, que d'une compréhension par le public de ce qu'est la science. Et la science, et je ne parle pas des mathématiques ici, je parle de l'ensemble des sciences de la nature. La science est une façon de regarder le monde et de pouvoir porter sur le monde des discours, qui sont des formules, nous en avons parlé, qui sont aussi des propos, par exemple, le soleil émet de la lumière, voilà, c'est une phrase parfaitement scientifique, qu'est-ce qu'on veut dire derrière cela, hein ? Et la science est capable de discerner le vrai du faux. Certains de ces propos sont vrais, d'autres sont faux. Mais elle est aussi capable de délimiter des périmètres de l'incertain, de l'improbable, et au contraire du très probable. Et ça, évidemment, ça concerne tous nos concitoyens de comprendre. Certains d'entre eux, je le sais pour en avoir fréquenté beaucoup, à propos de la main à la pâte, justement, pensent que la science, elle ne dit rien de vrai parce qu'elle change tout le temps. Vous voyez, il y a eu Newton et puis ensuite il y a Einstein. Donc, rien de tout ça n'est vrai. D'autres, au contraire, à l'autre extrémité du balancier, pensent que la science établit des vérités gravées dans le marbre. C'est scientifique, donc c'est vrai. Dans les deux cas, je pense que nos concitoyens n'ont pas une vision juste de la nature de la science. Il ne s'agit pas là de résultats sur tel ou tel domaine de physique ou de biologie complexe, mais qu'est-ce que c'est que ce rapport que, peu à peu, au fil des siècles, nous avons instauré avec le monde de la nature ? Et ça, c'est le propos de l'enseignement. Et vous évoquez la délégation que l'Académie des sciences m'a confiée il y a maintenant quelques mois. Veiller à ce que les élèves de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, veiller à ce que le public, par les médias, l'enseignement c'est quand même ce qui se passe dans les établissements scolaires, veiller à ce qu'ils aient compris cette nature de la science. On parle beaucoup du socle commun de connaissances aujourd'hui dans la scolarité école et collège en France. Le but n'est pas tant d'accumuler des quantités de connaissances sur la dérive des continents, sur les exoplanètes, sur l'ADN, sur la cellule et la cladistique. Hein. Bien sûr, tout ça vient. Mais le but, c'est que le jeune de 16 ans, quel qu'il soit, qui sort de notre système éducatif, ait compris qu'il y a, dans la diversité des activités humaines, des activités artistiques, littéraires, sportives, culturelles, spirituelles, et des activités scientifiques, et que chacune a son mode d'appréhension de la réalité, et que s'il a compris cela, alors on peut espérer qu'il deviendra un citoyen capable parfois de formuler un jugement lui-même, et capable parfois de comprendre le jugement des experts et d'être suffisamment critique pour poser parfois des questions exigeantes.
Est-ce que, justement, vous parlez de poser des questions exigeantes, est-ce que l'un des instruments de la recherche scientifique, si l'on peut parler d'instruments, n'a pas été oublié ? Est-ce que le doute, la manière de... un doute positif, bien entendu, un doute de recherche, et non pas la dérision, pas la remise en question de tout, est-ce que précisément le doute n'a pas été confondu avec un principe d'indétermination formal compris qui avoisine la dérision de tout. Alors, est-ce que ce n'est pas le doute qu'il faut remettre au cœur des choses ?
Mais je crois que je vous suis tout à fait ici. Nous avons assisté depuis en gros un siècle, et a fortiori dans les 50 dernières années, depuis la Seconde Guerre mondiale, à une explosion incroyable des connaissances scientifiques. Les apports de la recherche depuis un demi-siècle sont gigantesques. Et notre enseignement pédale, si je puis dire, pour suivre plus ou moins difficilement, en se disant qu'on n'arrive jamais à transférer aux élèves cette quantité de faits. Et il n'y arrive pas, de fait. Et pour beaucoup d'élèves, notre construction scientifique apparaît par comme une collection de résultats dont ils ne discernent plus la méthode. Or, la science, c'est pas d'abord des résultats, c'est d'abord des questions sur le monde. C'est une des merveilles de la main à la pâte que de voir ces bambins de 7, 8, 10 ans multiplier les questions. Pourquoi le ciel est bleu le jour? Pourquoi il
enfin,
est noir
pourquoi
la nuit? Pourquoi? Voilà, c'est l'homme,
c'est
je
la
crois,
question grecque. Pourquoi
est construit dans son psyché. Hein, il est construit autour du pourquoi, de l'interrogation. Et la méthode scientifique, ça consiste à d'abord, prendre au sérieux cette interrogation. On se pose beaucoup plus de questions dans un laboratoire qu'on apporte de réponses. Et ensuite, à mettre en œuvre un doute critique et constructif autour des questions.
C'est Socrate. La seule chose que je sache...
C'est que je ne sais pas.
C'est que je ne sais rien.
C'est que je ne sais pas. Et c'est ce qu'on apprend dans le métier. C'est non pas l'étendue de ses connaissances, mais l'étendue de son ignorance. Mais c'est celle-là qui est féconde, d'une certaine manière. Et je crois qu'à nouveau, rendre nos concitoyens, pour revenir à l'enseignement, davantage intéressés aux questions qu'aux réponses, juger davantage un élève de 14 ans, 15 ans, sur sa capacité d'étonnement devant le monde que la nature met sous nos yeux, plus que sur sa capacité d'aligner un calcul. Bien sûr, il le faut aussi. Mais ce qui est infiniment précieux chez l'homme, et chez l'homme jeune, et chez l'adolescent en construction, c'est justement cette capacité de questionner et de ne pas avaler toute crue n'importe quelle réponse, mais au contraire, d'être capable, et les jeunes le sont, les enfants, c'est tout à fait extraordinaire, sont tout à fait capables souvent d'apporter des critiques, dire « mais si tu me dis ça, alors voilà, telle conséquence doit se produire oui. ».
Alors il y a une chose que vous dites et qui correspond tout à fait à la dernière question. Il y a une chose qui correspond tout à fait à l'œil grec du kalon kagaton, ce qui est beau et bon et ce qui est bon et beau. Vous dites à un moment donné, on dit souvent des images astronomiques qu'elles font rêver. Nous tenterons de faire partager ce rêve, les réalités qu'il nous dévoile, mais aussi la pure beauté qui s'en dégage. Alors voilà qui peut paraître bien peu scientifique, ou est-ce très scientifique? Car il est un mot qui revient chaque fois chez vous, que j'ai vu dans nombreux articles et dans de nombreuses phrases quand on vous écoute, c'est le mot « quête ».
Quête, question, on est dans la même étymologie, hein, interrogation. Au fond, si nous faisons de la science, c'est parce que nous cherchons quelque chose. Nous ne sommes pas chercheurs pour être dans une case de catégorie socio-professionnelle. Nous le sommes parce qu'il y a, et je le répète, comme dans tout être humain, peut-être que les scientifiques le poussent plus loin, hein, une recherche de comprendre ce monde, de mettre un peu d'ordre dans cette multitude. Et cette recherche est guidée par un sens esthétique. Je crois que la recherche de beauté, de cohérence, d'harmonie nous vient en ligne droite des Grecs, mais que d'autres cultures connaissent bien. Je veux dire, dans le monde chinois, la recherche d'harmonie est absolument centrale aussi. Cette recherche est un moteur permanent. Alors, en tant que qu'astrophysicien, la beauté de ce que nous propose la photographie, l'observation du ciel sont...
L'harmonie des sphères.
Oui, ça a été dit dans d'autres termes, mais aujourd'hui encore, vous passez une nuit derrière un grand télescope, une machine perchée au sommet des Andes ou des volcans d'Hawaï, et puis vous êtes en quelque sorte ébloui intérieurement par la beauté de ce qui se révèle, qui est tellement loin de nous qu'on pourrait ignorer. Et puis... Le sens de la quête surgit à tout moment, puisque derrière cette beauté dévoilée par des appareils qui sont tout de même assez grossiers par rapport à ce qu'on pourrait faire, hein, si on avait des machines beaucoup plus puissantes, qu'on aura peut-être un jour, hein, on se dit que la quête, il faut la continuer, parce qu'elle est une réponse à un appel.
Nous étions en compagnie de Pierre Léna, astrophysicien, qui nous a fait partager son émerveillement, son désir de le transmettre, sa quête toujours recommencée et que d'autres reprendront. Nous nous retrouvons bientôt pour Rayon Gamma, facteur Epsilon. À bientôt.